cet après-midi, je vais vous parler de la compassion, que l'on nomme Karuna en pali. Et c'est une des quatre qualités du cœur, qu'on appelle les demeures divines, dans l'enseignement du Bouddha. Il y a la bonté ou bienveillance, metta, il y a la compassion, Karuna, il y a la joie altruiste, mudita. Et puis, il y a Upeka, l'équanimité, qui sont les, je rappelle aussi les demeures divines. Et la compassion, elle a cette couleur spéciale de pouvoir se lier avec l'expérience difficile, avec la souffrance, avec dukkha. Elle offre une réponse. Une réponse habile, une réponse sage à ces expériences qu'on peut ressentir. Et la compassion telle qu'on la pratique dans la méditation, c'est cette possibilité de se mettre au contact de l'expérience difficile, d'ouvrir la présence, de demeurer avec, sans se laisser submerger, et pareillement avec la souffrance de l'autre, de pouvoir être là, avec sa peine, ses difficultés, à savoir poser les bonnes limites, sans se laisser submerger, offrir son corps, le poids de son corps. Et c'est un peu différent du coup de l'étymologie latine du mot compassion, qui veut dire souffrir avec. Et dans l'approche bouddhiste, la compassion ne vise pas à souffrir avec l'autre, mais justement à pouvoir être là avec sa peine sans souffrir, ce qui est différent. Donc y être sensible, sans que ça nous submerge ou que ça nous mette en bas et que ça nous plombe le moral. Et en même temps, on est tout ouvert, tout réceptif. Donc c'est avant tout une qualité d'écoute, avant d'être une qualité vraiment d'engagement où on va conseiller, proposer des solutions, etc., etc. Et Karuna, la compassion, c'est une qualité qui est essentielle sur notre chemin méditatif, notre chemin de libération, de la souffrance. On peut le voir même en 45 minutes d'assise, à quel point tout d'un coup ça peut devenir franchement compliqué, difficile, dans le corps, dans le cœur, dans la tête, ça peut partir complètement en vrille. Bien sûr, on porte tout ça au quotidien, mais quand on vient s'asseoir, il y a tout qui nous explose à la figure. Et parce qu'on va nulle part, on ne peut pas vraiment partir et fuir. Et on est juste là avec ce qu'on porte en nous. Notre enfance, notre naissance, les blessures qu'on a traversées, les épreuves, le quotidien qu'on a, le stress, tout ce genre de choses. Et voilà, on arrive ici, on se pose, et tout ça est là. Alors qu'est-ce qu'on en fait? Et cette compassion sur le chemin, elle se marie avec la sagesse. La compassion a cette connotation chaude, de venir amener un peu d'amour en fait sur la difficulté et sur l'expérience désagréable, et de venir dire au petit moi ou au petit Nicolas: ah, c'est bon, je suis là, t'inquiète pas, je suis là, un soutien qui est là, le petit Nicolas, il se sent sécurisé, il se sent aimé, il se sent entendu. Il y a une présence qui est là, chaleureuse. Puis la sagesse, elle a cette qualité plus, peut-être plus froide, sans que ce soit péjoratif, mais de lâcher prise de recul, de compréhension de la nature fondamentale de l'expérience qui n'est pas personnelle, qui est beaucoup plus équanime, qui observe sans préférence. Et ces deux aspects, c'est ce qu'on appelle les ailes de l'oiseau. Et on en a besoin parce que notre petit moi, notre ego, notre petit enfant intérieur, pour lâcher prise, il a besoin de se sentir aimé. Il ne lâche rien, sinon ça ne lâche pas ou ça dissocie peut-être. Mais ça ne peut pas lâcher avec confiance. On ne peut pas vouloir lâcher prise. Il y a besoin d'un sentiment fondamental de sécurité et que ça va aller si j'ose aller dans cette zone de vulnérabilité. Et qu'est-ce qui se passe tous les jours, même plusieurs fois par heure, c'est que lorsqu'un contact arrive par nos sens ou une pensée émerge dans notre esprit qui génère un ressenti, une perception désagréable, mon système nerveux et mon esprit fonctionnent automatiquement par une réponse d'aversion. Ouh, il y a quelque chose qui se contracte. Il y a quelque chose qui rejette. Il y a une forme d'identification qui se passe. Désagréable, je n'aime pas. Je ne veux pas. Erreur. Et ça monte dans la tête. Cette expérience, avec la perception de l'expérience, se met à la lumière de nos systèmes de croyances, de nos attachements. Je ne devrais pas sentir cela. Ça ne devrait pas être comme ça. Il faut que je trouve une solution. Et de là, un récit se crée selon mes propres conditionnements. Et un problème personnel est créé. Avec l'unique perspective de devoir solutionner le problème mentalement pour qu'il disparaisse. On a chacun nos mécanismes d'évitement, de lutte, de d'ignorer le truc, pas le voir. Et la dernière chose qu'on veut faire, c'est de revenir dans le corps, puis de sentir comment c'est. Quand l'autre matin, je me suis réveillé, je n'étais pas très bien. Je ne sais pas ce que c'était, mais dans le ventre, l'aversion. Puis tout de suite, ça commence à tourner dans la tête, à dire « Ah non, mais j'ai pas envie de faire ça aujourd'hui, mais pourquoi je dois faire ça ?» Et la dernière chose que j'avais envie de faire, c'était juste d'être là avec le corps qui était juste pas très bien. On n'y pense pas à faire ça. On ne nous l'a jamais appris, en fait. Et si cette réactivité à l'expérience désagréable, elle nous est encore aujourd'hui extrêmement utile dans les situations critiques ou de danger vital, face à un événement potentiellement traumatique où la seule chose à faire dans le système, c'est de lutter, de fuir ou de s'immobiliser, de se figer. Si ce programme nous a permis de survivre à travers les siècles et les millénaires, les hommes préhistoriques jusqu'à aujourd'hui, Ce programme n'est pas très bien adapté pour toutes les autres situations. Moins vital, mais où ça touche l'ego, ses attachements, et où, face à cette première pique de l'expérience désagréable, nous pouvons rajouter, et d'aversion, nous pouvons rajouter des couches infinies d'aversion et de souffrance. Là, on surréagit lorsqu'on ne se sent pas très bien, alors que on sait que ça va peut-être passer. Ou alors on remet tout en question, notre vie, notre moi, le couple, les enfants, le job, tout quoi, tout y passe. Des fois, lorsque les choses elles vont pas comme on veut, au travail, avec les transports publics. Ou peu importe, il y a tout un tas de choses qui ne vont pas comme on a envie tout le temps, dans le monde, au Conseil fédéral, j'en sais rien. Hein? On surréagit lorsqu'on est critiqué, lorsqu'on échoue, lorsqu'on tombe malade. Des fois, comment, voilà. Hein? Petit rhume, et puis c'est la fin du monde. Et cette surréactivité à la douleur, ben, elle peut entraîner tout un tas de choses, hein, de l'irritabilité, la négativité, la violence, l'anxiété, les addictions, l'insatisfaction chronique. Tout ça parce que on n'a pas appris à venir au contact de cette première flèche qui vient nous toucher, puis amener un peu de compassion. Et plus on s'accroche aux choses telles qu'elles devraient être, ou nous pensons qu'elles devraient être, plus cette souffrance elle grandit, parce qu'il y a la réalité du maintenant, qui est tel qu'il est, il ne peut pas être différent maintenant. Ça ne signifie pas que peut-être plus tard, je mette en œuvre des choses pour que des choses changent, si c'est ce qu'il y a à faire. Mais tant que je me mets en conflit avec l'expérience maintenant, telle qu'elle se présente et comme j'aimerais qu'elle soit, ben nous créons dukkha. C'est Sénèque qui disait, il y a ce qui nous tourmente plus qu'il n'est nécessaire. Ce qui nous tourmente avant qu'il soit nécessaire, ce qui nous tourmente alors que ce n'est absolument pas nécessaire. Notre douleur, nous l'augmentons, nous l'anticipons et nous l'inventons. Nous l'inventons, je ne sais pas, mais nous l'augmentons et nous l'anticipons très souvent. Donc la pratique de la méditation, elle nous invite à approfondir la compassion envers dukkha. À la dévoiler, puis à la faire mûrir. Donc plutôt que de fuir sans cesse cette douleur, on peut apprendre à aller à sa rencontre. Avec douceur, tranquille. Mais ce qui va nous aider dans pour déjà faire le premier pas, de dire, bon, ok, je veux bien y aller. Et puis pour éviter aussi d'y foncer, tête baissée, en se disant, wow, je suis un guerrier, j'y vais. Et puis de se laisser complètement submerger ou de créer d'autres attachements ailleurs. Il est bon de se rappeler ce qu'on appelle les trois nobles vérités qu'a énoncé le Bouddha. C'est la première vérité, c'est la vérité de dukkha. Que nous le voulions ou non, l'expérience humaine, elle est teintée de souffrance. L'expérience humaine n'est pas que souffrance. Mais il y a aussi ça. C'est l'autre. c'est le principe même d'être dans un monde de dualité où il n'y a pas de chaud sans froid, il n'y a pas de joie sans tristesse. Tout est dans cette polarité, dans les lois de l'univers. Et d'entendre, rien que d'entendre cela, ça peut être très libérateur. On nous dit toujours qu'il faudrait être super content, heureux, qu'on doit se débattre pour que tout soit bien, confortable, sécure, harmonieux. On peut même rentrer dans des schémas tyranniques du bonheur, il faut absolument être heureux. Je ne sais pas s'il y en a qui y sont arrivés de cette manière, je ne sais pas. Mais moi, je vois qu'en tout cas pour moi, c'est beaucoup plus soulageant et libérateur de savoir que Dukkha est là et ça sera toujours là. Et je peux. C'est Comte Sponville qui dit « Je suis heureux parce que j'ai renoncé au bonheur. » Et bien, il y a une forme de soulagement à savoir que, eh bien oui. L'insatisfaction, l'anxiété, la peur, la tristesse, l'aversion, et puis bien sûr toutes les autres facettes, que là, celle-là, on les veut bien, ben ça va toujours être là. Et c'est OK. Et ça, c'est la première vérité. Notre physiologie fonctionne ainsi. On est dans un monde intérieur, extérieur en constant changement. On ne peut fixer aucune situation, aucune relation, rien. On ne peut rien fixer. Tout change. Et tout est potentiellement complètement incertain. Et notre corps, face à ces ruptures d'équilibre, nous envoie des signaux désagréables. Notre amygdale, elle envoie un changement d'équilibre, changement d'état psychique, attention, désagréable. Changement de rapport au travail. La physiologie repère un danger potentiel. Désagréable. C'est notre corps qui réagit comme ça. Et la deuxième vérité, c'est que la cause de cette souffrance, l'entretien de cette souffrance et la réactivité à cette souffrance est liée à l'avidité, l'aversion, à la réaction d'avidité et d'aversion, et aux attachements auxquels on se maintient, nos systèmes de croyances, nos points de vue. On peut le voir, plus nous nous attachons à vouloir de la reconnaissance, un statut. Bah plus on souffre, parce que plus on a peur de perdre cela, ou de ne pas l'avoir, ou on surréagit quand une critique émerge. Puis, ça fait mal. Y a l'attachement au succès. Plus on s'attache au succès, plus la chute est brutale lorsque l'échec arrive. Et l'attachement au plaisir des sens. Il ne s'agit pas de renier le plaisir des sens, mais l'attachement au plaisir des sens. En vouloir toujours plus de confort, plus de plus. On peut voir où ça mène la planète. Mais cet attachement-là, nous amène la souffrance parce que c'est jamais terminé. Ces expériences agréables ont toujours une fin et du coup ça doit toujours se répéter encore et encore et encore. Et puis forcément, alors quand la douleur arrive, et bien là, on ne le veut pas, il y a du rejet. Puis il y a l'attachement, encore à quoi ? Au gain, voilà, au gain matériel et à la perte. Les quatre attachements mondains. Donc ça, c'est la deuxième vérité. Plus nous nous attachons à cela, à nos points de vue, à nos idées, à nos valeurs, plus nous nous exposons à une douleur, une souffrance potentielle. Et la troisième vérité, c'est la vérité de la cessation, de l'abandon. Et on peut abandonner avec compassion lorsque nous sommes heurtés par cette flèche, une critique vient nous toucher. Plutôt que d'y réagir immédiatement en agressant l'autre verbalement ou en me disant à quel point en fait ça m'a complètement détruit, puis en fait je suis vraiment nul, et puis il faut vraiment que j'arrête de faire tout ça, parce que j'ai toujours été nul, tout ce que j'ai entrepris. Eh bien, on peut juste en dire, pouah, première flèche. Et c'est là que est la libération. On peut voir comment ça part dans les constructions mentales, dans ce qu'on appelle les sankharas, ces programmes qui sont des programmes, hein, qui vont déployer le récit et l'histoire, avec un moi, un autre, ma vie, mon enfance, tout ça, tout revient là. Ou alors être là avec la première flèche. Ok. Et je vais faire une petite pause là, un moment. Et venir là avec la compassion. Donc on autorise à se laisser toucher, à aller dans notre vulnérabilité, sans se laisser submerger, en acceptant nos limites, mais aussi en fixant avec la compassion. La compassion, il ne s'agit pas de. D'avoir d'être dans le nos limites. C'est l'autre revers de la médaille, c'est aussi de savoir fixer des limites pour soi, pour les autres. Et être de notre côté. Ok, pas première flèche, critique, ou j'ai envie de mon job, ou il peut y avoir des trucs beaucoup plus petits. Hein. Le train arrive en retard, arrive en retard au travail. Première flèche. Je peux être là à mes côtés, ok, ouais, ça fait mal. Mais comment c'est? Juste là, en soutien. Sans tomber dans le pathos. Ou... Et c'est Pema Chodron qui. La parole est assez punchy, mais en même temps, elle a le mérite d'être branlée un peu. Pema Chodron est une nonne américaine qui était dans la tradition tibétaine du Vajrayana, qui enseigne à Halifax, ou qui enseigne peut-être encore, ou pas, je ne sais plus, dans un monastère. Et elle dit cela dans un de ses livres, qui est très bien. La souffrance commence à se dissoudre quand nous sommes capables de remettre en question la croyance ou l'espoir qu'il existe un endroit quelconque où se cacher. Et on le voit bien quand on vient sur notre coussin, on peut plus se cacher. Et on peut lutter, et on va lutter encore un moment, et on lutte encore souvent, jusqu'au moment donné où il y a quelque chose qui fait, ok, j'abandonne, je dépose les armes avec le conflit. Et je vous proposerai demain matin une méditation là-dessus. J'abandonne. J'aimerais tellement que mon corps il aille mieux, que ce soit comme ci, ce soit comme ça. Mais là, j'abandonne. Je dépose les armes. Donc, on peut mettre en place l'habitude de la compassion, que ce soit dans l'assise, en marchant, et puis au quotidien. Et c'est un moyen très habile, la compassion, pour rester au contact du moment présent. Sinon, on part très vite tous dans le monde conceptuel, dans le passé, dans le futur. Là, ça nous ramène hein, comme une aiguille qui nous permet de rester au contact de l'expérience, cette qualité de compassion, plutôt que de décoller, de fuir. Nous permet de rester dans la réalité de l'instant présent. Et du coup, d'ouvrir le cœur et la conscience à la totalité de l'expérience humaine. Des fois, il y a la joie, et des fois, c'est de la peine, des fois, il y a de l'aversion, des fois, il y a de la tranquillité. Puis d'ouvrir ce cœur un peu, cette conscience, à l'ombre, à la lumière, à l'agréable, au désagréable. et voir que cette conscience, qu'il y a de l'agréable ou du désagréable, peu importe pour elle, elle a cette qualité d'unifier tout, d'être un. Et pouvoir tout englober. Donc on offre cet espace de réceptivité. Et oui, on voit, ça commence à se tordre. Oh, j'ai pas envie. Ok, je vois que j'ai pas envie. Puis je reste là, avec ça. Et l'approche de base est juste déjà d'amener une présence au contact. Hein, on a ce petit, si je serre le poing, c'est comme si notre corps d'un coup il se refermait au contact d'une expérience désagréable, ou il y a quelque chose, une histoire qui me touche, et je sens tout mon être se refermer. Plutôt que de venir vouloir absolument ouvrir ce petit moi et puis dire non, mais c'est bon, ouvre-toi. Non, on peut juste venir poser une main dessous et puis laisser se reposer là. Hein, puis cette présence compassionnée, c'est comme cette main soutenante qui vient se déposer sur ce point tout fermé qui se contracte. Et puis des fois, on peut venir juste vraiment au contact, et puis des fois, on garde. Si c'est trop, on garde juste une distance, on sent comment c'est juste, puis on vient toucher, puis on lâche, puis on vient toucher un peu, puis on relâche. Et on sent les limites, hein? On accepte nos limites. Ces expériences douloureuses, elles peuvent être très violentes, hein? Très submergentes. Ça peut même être des expériences traumatiques qui peuvent nous refaire partir tout le système dans des mécanismes de peur et d'immobilité très forts. Donc ça demande beaucoup de respect et de tact. Donc il est tout à fait bon et compassionné de savoir qu'à un moment donné, ah bah le contact avec l'expérience, je le lâche un moment, je fais une pause, j'ouvre les yeux, je regarde autour de moi, je pense à quelque chose qui me fait du bien. Voilà, dans la. Et c'est faire preuve de résilience aussi, ça, de pouvoir le faire. Donc on ne pousse pas, hein? On ne vient pas trop pousser, on vient doucement. Une autre approche, c'est ce qu'on appelle les paroles de compassion. Et lorsqu'on est au contact d'une expérience difficile, ça peut être une douleur hein, dans l'assise, ça peut être quelque chose de plus émotionnel. On peut formuler des paroles comme « je suis sensible à ma peine »,« je la respecte ». Je vous en proposerai une série aussi demain matin. Et de formuler ainsi des paroles, elles ont ce pouvoir, entre guillemets, de cette qualité de compassion, de les incarner, en même temps elles occupent l'esprit à faire autre chose que de penser à mon problème, à ma douleur. Et puis du coup on reste au contact de l'expérience. Et puis une approche tibétaine, c'est ce qu'on appelle le tonglen, qui est une approche aussi autour de la compassion, qui prend le contre-pied de cette aversion à l'expérience difficile pour aller complètement à sa rencontre. C'est-à-dire qu'on va aller sentir ce qui est difficile et on va inspirer cette douleur. On va inspirer toute cette douleur en nous. Et à l'expire, on va expirer du lâcher-prise. On peut s'imaginer plein de choses avec ça, une lumière, une fumée noire qu'on inspire, une fumée blanche qu'on expire. Ça peut être très imaginatif aussi comme pratique. On peut le faire pour soi, on peut le faire pour les autres. Et c'est une manière très puissante de contrecarrer cette réaction physiologique du retrait pour aller vers. Et ça peut être très puissant. Et de nouveau, à faire avec beaucoup de respect, de voir si c'est approprié et juste de le faire pour soi. Donc dans tout ça, on ne cherche pas à transformer la douleur, mais on cherche à pouvoir amener cette présence, puis à laisser faire le temps. C'est pas nous qui transformons quoi que ce soit. C'est cette sagesse intérieure, c'est cette qui est en nous-mêmes et qui est dans la vie, dans la nature. Hein, c'est cette sagesse de la nature qui, lorsqu'on reste en présence, ben on sait qu'il y a une rythmicité entre les polarités. Comme il y a le soleil qui se lève et qui se couche, il y a une rythmique qui se met en place aussi avec toutes ces énergies. Ça peut prendre du temps. Mais c'est très libérateur et ça amène beaucoup de confiance, de savoir que on n'a pas tout à solutionner, tout à gérer. Et que parfois, la chose la plus sage, c'est juste laisser faire le temps. Et avec le temps, les choses se posent et s'apaisent, que ce soit dans le relationnel, ou avec des difficultés qu'on rencontre en nous. Et cette intention, on peut se l'offrir pour nous-mêmes, et puis on peut l'offrir petit à petit aussi pour les autres. Leur offrir cette présence, cette ouverture. Et plus on va pouvoir le faire pour nous, plus on va pouvoir l'offrir aux autres, parce qu'on sait qu'on va pas être submergé. On va pouvoir rester avec ça. On comprend qu'il y a dukkha. Et on sait qu'on peut être là avec l'autre. On sait que l'autre, il éprouve des difficultés. Il a son propre vécu, il réagit tout comme nous à la vie et qu'on peut rester au contact avec lui. Et c'est un autre extrait du livre de Pema Chodron qui dit cela, cette parenté avec la souffrance d'autrui, cette incapacité à continuer à la considérer de loin, c'est la découverte de notre point sensible, la découverte de la bodhicitta. Ce mot sanskrit signifie cœur noble ou éveillé. On dit qu'il est présent chez tous les êtres, de même que le beurre est présent dans le lait et que l'huile est présente dans la graine de sésame. Ce point de vulnérabilité est présent en vous et moi. On dit que lorsque les temps sont difficiles, il n'y a que la bodhicitta qui soulage. Quand l'inspiration a disparu et que nous sommes sur le point de tout laisser tomber, c'est le moment où la guérison peut se trouver dans la tendresse de la douleur elle-même. C'est le moment d'entrer en contact avec le cœur authentique de la bodhicitta. Au cœur de la solitude, au cœur de la peur, au cœur de l'incompréhension et du rejet, se trouve la pulsation de toute chose, le cœur authentique de la tristesse. Et cette capacité de nous relier à la souffrance des autres, nous établit dans un besoin fondamental de nous sentir connectés. De nous sentir connectés avec nous-mêmes, de nous sentir connectés avec les autres. On peut se sentir connectés avec les autres quand ils sont bien, contents, joyeux, mais comment on sait de se sentir connectés aussi quand ils sont dans la difficulté? Et ça peut être très simple à offrir, hein. Bien sûr, on peut venir conseiller, on peut sentir notre volonté d'aider, de soigner. Mais fondamentalement, ce qui compte le plus, c'est la qualité de présence que l'on offre. C'est comment est-ce qu'on peut se laisser poser dans le poids de son corps, être pleinement là, à l'écoute. Comme la main sous ce poing, être là au contact. Et l'autre le sent. Des fois, on veut conseiller, on se plante, ça l'énerve encore plus, ça le tend, il a trop envie d'être conseillé, il a juste envie d'être écouté. Et c'est pareil pour nous. Vous voyez comment on se conseille à l'intérieur, on veut solutionner, on dit ouais, et si tu te taisais un peu là-dedans? Et que tu étais juste là un moment avec toi et que tu te laissais tranquille, juste en silence avec toi, ok? Voilà. Stop maintenant. Et quand il y a la compassion qui est à nos côtés, on peut vraiment l'employer tout le temps. Hein. Ben, on chemine de manière un peu plus confiante parce que on a moins peur de souffrir. On sait que y a quelque chose qui fait que ok, là il y a de la joie, et puis là c'est un peu plus triste. Il y a un mal-être. Ok, je suis là, c'est ok. Hein, ça ébranle pas tout le tout. Ou je me retrouve pas à crier sur tout le monde autour de moi, à rendre la vie insupportable pour les gens autour de moi parce que tout d'un coup je me sens pas bien. Je reviens à moi et je prends la responsabilité de ma propre souffrance. Et c'est ce qui me permet du coup aussi de, quand je peux m'ouvrir à la souffrance pour moi et puis pour les autres, à me libérer aussi du ressentiment, de l'irritabilité, petit à petit, en tout cas il y en a moins. Puis de comprendre que, voilà, peut-être si l'autre il m'a mal parlé, c'est juste que, bah, il n'était pas bien aujourd'hui, il a son vécu. Et puis que je peux aller dans la compassion pour moi. Pour comment, parce que ça me touche, puis peut-être un peu dans la compréhension pour lui, parce qu'il s'ouvre très certainement aussi. Et je finirai avec cette parole de Mingyur Rinpoché. Mais le plus beau, c'est que quel que soit le nombre d'années de pratique ou la technique utilisée, toutes les formes de méditation bouddhiste finissent par générer la compassion. Que nous en soyons conscients ou pas. Chaque fois que vous regardez votre esprit, vous ne pouvez pas vous empêcher de voir qu'il ressemble à l'esprit de ceux qui vous entourent. Quand vous voyez votre désir d'être heureux, vous ne pouvez pas éviter de voir le même désir chez les autres. Et quand vous portez un regard honnête sur votre peur, votre colère, votre aversion, vous ne pouvez pas manquer de voir que tous ceux qui vous entourent ressentent la même peur, la même colère et la même aversion. Quand vous observez votre esprit, toutes les différences imaginaires entre vous et les autres se dissolvent automatiquement. Et l'ancienne prière des quatre incommensurables devient aussi naturelle et constante que les battements de votre cœur. Puissent tous les êtres vivants trouver le bonheur et la cause du bonheur. Puissent tous les êtres vivants être libres de la souffrance et des causes de la souffrance. Puissent tous les êtres vivants trouver la joie et les causes de la joie. Puissent tous les êtres vivants demeurer dans la grande équanimité, libre de l'attachement et de l'aversion.